Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective, où nous allons littéralement faire la guerre à la guerre, en comprenant que notre prochain, non pas pour avoir une parole divine, mais notre prochain est notre meilleur allié, sous réserve que nous soyons conscients que nous sommes notre premier allié avant lui-même, puisque notre reflet de soi s'exprime chez l'autre. C'était la saison 5, en réalité, où on avait commencé à comprendre, à travers Les Doigts dans le Miel, que notre potentiel commence à partir du moment où on peut exploiter ce qui fait notre individualité, ce qui fait notre personnalité, ce qui fait notre identité. On avait parlé dans la saison 5 de rencontre avec son semblable. En réalité, c'était soi. On avait parlé de miroir déformant, de la manière dont on se perçoit. On avait parlé de soi, de se voir soi en l'autre. C'est le reflet de soi, c'est la perception de l'autre. Et en réalité, on voit le monde exactement comme nous sommes. Ce qui fait que, petit à petit, de fil en aiguille, il y a aussi un effet boomerang d'une projection puissante qui est, si je vois le monde tel que je suis et que je me projette sur les autres, alors ceux qui n'ont pas le comportement qui me plaît ou qui me semble me ressembler le plus, je ne les accepte pas dans mon quotidien, je ne les accepte pas dans mon environnement. Ils touchent à mes valeurs, ils touchent à ma personnalité, ils touchent à ce que je représente. Donc, je ne m'en approcherai pas et je serai dans le refus de communiquer, c'est-à-dire de bien écouter, et on ne sait pas bien écouter, on n'apprend pas ça à l'école, on sait entendre ça, c'est sûr, mais je pars du principe, et c'est un parti pris, que nous ne savons pas bien écouter. Et si j'y travaille personnellement, je suis conscient en tout cas du fait que je ne sais pas bien écouter non plus. Ça fait pourtant partie de mon travail, ça fait pourtant partie des choses que j'étudie en permanence, ça fait partie des choses que je lis, que je pratique, je me projette justement sur l'autre pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça me fait physiquement sur moi quand quelqu'un est différent, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un fait, quand quelqu'un réfléchit et quand quelqu'un me dit. Parce que la traduction de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui a un impact physique. La traduction de vos valeurs, la traduction de votre, du fait d'être à l'aise, la traduction de comment ça se passe dans notre environnement du moment, c'est-à-dire est-ce qu'on est avec des gens, des amis, etc. Eh bien, ou pas d'ailleurs, eh bien en fait, ça passe par le spirituel, ça passe par le mental, ça passe par les émotions, et tout ça est traduit physiquement. Ce qui fait que si vous commencez à vous démanger un petit peu le bras, à vous gratter la cuisse, à vous caresser la joue, à vous sentir pas bien ou au contraire très à l'aise et que ça vous fait des nœuds au ventre, dans le entre guillemets bon sens ou comme dans le mauvais sens, eh bien ce sont des signaux. Et ces signaux, dirait Pierre Rabhi, c'est ce qui traduit en réalité la manière dont se comporte le monde aujourd'hui. Ce que vous ressentez, ce qui vous arrive physiquement, ce qui fait que vous êtes un animal au final et qui vous permet de vivre quelque part, c'est-à-dire de ressentir la vie, des émotions, du plaisir, de la tristesse, de la douceur, de la satiété, etc. Eh bien, c'est la capacité de votre corps à retranscrire ce qui se passe à l'intérieur vers le monde extérieur, donc à le matérialiser, à passer de l'attention à l'intention. L'attention mobilise mon cerveau, mes yeux, mon écoute, et se traduit eh bien, en intention, c'est-à-dire par exemple en acte, le fait de se gratter, comme je disais, ou encore d'agir dans la vie de tous les jours. Eh bien, dans cette saison 6, nous avons pu aborder, alors la saison 5 bien sûr fait une cinquantaine d'épisodes, et là je vous ai cité que les premiers épisodes de son démarrage, du 201 au 207, eh bien, la conscience collective prend parti que le collectif est la clé. Nous sommes la solution. Je l'ai plusieurs fois dit et répété dans le podcast, dans le sens mathématique. Nous, le collectif, sommes, au sens compile, combine, au sens ça serait presque un sens multiplicateur finalement, plutôt qu'additionnel, puisque la combinaison des idées multiplie le savoir. Ce n'est pas comme de l'argent où je vous donne 20 euros, auquel cas je suis moins riche de 20 euros et vous plus riche de 20 euros, bien qu'au final, on pourrait imaginer cette monnaie comme circulante parce que je fais appel à vos services, vous faites appel au service de quelqu'un et quelqu'un fait appel à mes services. Et bien au final, c'est ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie, la vélocité de l'argent. Le nombre de fois où un billet est échangé avant de finir eh bien, dans la case poubelle, quelque part. Une idée que je vous partage fait d'autres idées. Une idée que vous me partagez fait d'autres idées. Le savoir, l'information, ne disparaît pas au moment où on la donne, où on la transmet, où on la partage, où on en fait don. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'était l'épisode d'hier, qui était dédié à l'unification. L'information n'est pas du savoir digéré. La connaissance est du savoir digéré. Mais je peux avoir un milliard d'informations que si je ne sais pas les traiter, eh bien, j'irai nulle part avec. Si je ne sais pas lire une carte de navigation, comment voulez-vous que je me repère? Je regarde le soleil. Bon, il est à gauche puis à droite. Ah mince, j'ai fait un tour sur moi-même? Ou alors c'est le matin et le soir? Bon, tout ce genre de réflexion, un peu bateau, justement pour prendre l'exemple de la navigation, eh bien, est extrêmement concret. Si vous avez l'information, mais que vous ne savez pas comment l'utiliser, ce n'est pas de la connaissance. En revanche, à partir du moment où vous comprenez l'information que vous avez extraite des... Eh bien, de tout ce que vous avez lu, appris, partagé, etc. Ça fait de la connaissance. Et cette connaissance peut vous rendre sage, peut vous rendre enseignant, peut vous rendre professeur. Dans le sens où vous êtes en mesure de partager à quelqu'un de manière construite, structurée, organisée, un ensemble d'informations, un ensemble de savoirs qui permet à l'autre personne de se l'approprier. Et ça, c'est absolument génial. Nous pourrions tous être des enseignants de nos métiers, des consultants de nos métiers. Et c'est là où il y a encore une différence avec ceux qui savent et ceux qui font. Parce que la connaissance n'est que du savoir digéré, n'est que de l'information digérée. Faudrait-il encore pouvoir le passer dans le monde physique ? Et là, vous avez différentes manières d'exprimer ce que vous maîtrisez. La compétence est ce qui permet de transposer au monde physique tout ce que vous savez. Et vous savez, justement, quand on dit « Oui, oui, je sais. Oui, oui, arrête de me le rappeler, je sais. Oui, 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 merci, c'est bon. Je sais. » Un enfant vous dit ça. « Je sais. » Moi, je l'ai dit plein de fois quand j'étais enfant. Et je le dis encore de temps en temps. Je suis sûr que vous aussi. Eh oui, je sais. Quand quelque chose nous est mis sous le nez alors qu'on sait très bien. Et oui, effectivement, on sait très bien. Mais alors, pourquoi on ne fait pas? Eh bien là, pour le coup, c'est de l'ordre de la compétence. Si vous savez, vous devriez le faire. Et si vous le faites, ça devrait marcher. Que se passe-t-il si ça ne marche pas? Ou que se passe-t-il si ça ne marche pas à la hauteur de ce que vous savez? Eh bien, il faut pratiquer encore. Il faut pratiquer tout court, et puis il faut pratiquer encore. Et donc, on en arrive à la phase d'action, de transposition dans le monde réel, de capacité d'expression, d'expérimentation, d'expérience. Et pour le coup, l'expérience, elle, ne s'apprend pas. Alors, vous pourriez avoir de l'expérience dans le fait de partager de la connaissance. Auquel cas, j'ai une grande pensée pour nos amis enseignants, pour nos amis professeurs, pour toutes ces personnes qui contribuent à notre éducation dans le monde, que ce soit nos professeurs d'école, d'autres professeurs, des consultants qui partagent leur savoir et qui nous éclairent de leur lumière, au pluriel, la lumière et les ampoules étant souvent rattachées aux idées. Il n'empêche que il peut y avoir une différence fondamentale entre le fait d'être extrêmement compétent pour maîtriser et communiquer, partager un savoir et d'en tirer les bénéfices. Je vais prendre des exemples radicaux parce qu'en réalité, il y a des enseignants qui gagnent extrêmement bien leur vie. Mais un enseignant et un entrepreneur, par exemple. D'ailleurs, on pourrait réunir les deux. Un enseignant est payé pour communiquer du savoir, de la théorie, dans un environnement de cours, de classe, d'école, en ligne ou en physique, peu importe. Et il est rémunéré, bien, par la fonction, en tant que fonctionnaire, s'il fait partie de la fonction publique, ou par l'école privée, si c'est une école privée, etc., etc. Donc il est rémunéré pour partager du savoir. Un entrepreneur peut ne pas en savoir autant qu'un enseignant. En revanche, il sera payé en fonction de ce qu'il arrive à générer comme argent. Si je vends des produits sur Internet, à quel point je maîtrise la vente de produits sur Internet? Et là, je peux avoir ingurgité 1000 livres sur la vente de produits Internet. Que si je suis incapable de le réaliser dans le monde réel, alors je pourrais peut-être l'enseigner à 1000 personnes que moi, je ne saurais pas le faire. Il y a donc différents types de compétences. Et par exemple, être incapable, et c'est là où on peut imaginer un mix, mais c'est qu'un exemple, un entrepreneur qui aurait beaucoup, beaucoup lu sur le sujet de la vente en ligne, eh bien, en réalité, serait capable de se transformer en infopreneur parce que il pourrait communiquer tout ce qu'il a appris grâce à un système qui lui permet de faire des ventes en ligne de ce qu'il a appris. Donc, vendre des cours de manière eh bien, autodidacte, quasiment. Il deviendrait à son tour enseignant, c'est ce qu'on appelle infopreneur, et entrepreneur, d'où la combinaison et la contraction entre les deux. Entrepreneur de l'information. Et donc, ça fleurit en ce moment sur Internet depuis quelques années, parce que finalement, nous sommes tous capables désormais de produire un cours en ligne, peu importe qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité, nous avons tous de l'information en nous, nous avons tous de la connaissance en nous. Il y a des sites comme Udemy qui permettent à n'importe qui de produire ce type de cours, et vous pourriez même, il me semble, si ma mémoire est bonne, que j'avais trouvé des cours sur comment faire des plantations ou des pots de fleurs. J'ai un petit doute là-dessus, mais je sais que j'avais été marqué par le fait, la capacité de trouver, pour rémunérer quelqu'un, de trouver un cours en lien avec le jardinage. J'avais retenu ça comme ça, mais ça avait attiré mon attention parce que je me suis dit, ah oui, tout. Ce qui m'avait intéressé, moi, c'était la psychologie appliquée, par exemple. Eh bien, j'ai pu trouver ça aussi, avec des enseignants, pour le coup, praticiens, pour faire à la fois de la théorie et de la pratique, pour avoir une approche réflexive et actionnable dans le monde réel, et pas juste pour me réfugier dans des bouquins. Et eh bien, j'ai trouvé l'enseignant, qui s'appelle Kane Ramsey, qui est le fondateur de Acology, qui pour le Modern Applied Psychology, c'est la psychologie appliquée moderne. C'est une manière très pratique d'aborder les notions de psychologie qui peuvent être enseignées dans des universités, des grandes écoles, etc. Et lui, par exemple, je crois qu'il a plus de 300 000 personnes qui ont acheté ses cours. C'est un infopreneur excellent. Pour la petite anecdote, c'était un vétéran qui était tombé dans l'alcoolisme complet. Un vétéran, c'était un ancien de l'armée des États-Unis qui a fini son service, tombé dans l'alcoolémie la plus complète. Il s'est ressaisi. Il a été formé à l'art oratoire, eh bien, avec des universités comme celle de Carnegie, de Dale Carnegie, par exemple, c'est l'auteur de Comment se faire des amis. Et ça lui a servi, visiblement. En tout cas, il s'est mis en marche pour arriver à le faire, pas à pas. Eh bien, on pourrait en arriver là. Dans cet épisode qui est dédié à la planification, au fait de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout un système dans lequel on tire parti du collectif, dans lequel la conscience collective est un fondamental, une base, un socle, un déterminant suffisamment fort et omniprésent pour qu'en réalité, on n'ait même pas besoin de le dire parce que c'est évident que c'est là, et sans laquelle l'écosystème, l'ensemble, ne pourrait pas exister. Je vous avais déjà partagé cet exemple de la difficulté de définir ce qu'est la pornographie. À partir de quel moment est-ce qu'on dit que c'est porno ? Eh bien, c'est ça la définition qui avait été apportée. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que je viens d'entendre Omar Sy, l'acteur français, le présentateur français, qui est une personnalité très appréciée des Français, dire à peu près la même chose à propos de l'amour. Dire la même chose d'ailleurs à propos de l'amour. Et ça m'a frappé, c'était tout à l'heure. Donc je vais vous dire pourquoi. Le côté pornographie, ce qui n'est pas de l'amour, en tout cas pas à mes yeux, eh bien, c'est à partir du moment où c'est tellement évident qu'en fait, il n'y a plus besoin d'essayer de l'expliquer, on sait que ça en est. Et c'est ça la définition qui avait été trouvée pour dire à partir de quel moment est-ce qu'on peut, par exemple, naviguer sur Internet et demander son âge pour entrer ou pas. Eh bien, Omar Sy expliquait exactement la même chose au sujet de l'amour. Et il disait, l'amour, c'est... Bah non, en fait, c'est quand c'est là, c'est évident. Il n'y a pas besoin de le dire. Et c'est vrai, mine de rien. Est-ce que, quand il y a besoin de dire quelque chose, quand on ressent le besoin, est-ce que c'est pourquoi ? C'est pour exprimer à quel point on a envie d'exploser par rapport à ça. C'est absolument magnifique. C'est absolument génial. On est tellement comprimé de l'intérieur. On s'est tellement ramassé de tout ce qu'on ressent que ça vient exploser vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, on le partage sans limite aux autres. Et j'ai une grande pensée à Cindy, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir d'ailleurs sur Instagram, au compte Mes Trésors de Maman. Omar Sy exprimait le fait que, eh bien, quand c'est suffisamment présent, il n'y a pas besoin de le dire. Et dans ce cas-là, quand on le dit, c'est plutôt un cadeau, un don, mais ce n'est pas une justification. Et c'est là où ça devient important. C'est que quand on ressent, et quand c'est là, quand c'est, on sait. Et on n'a plus besoin de le dire. Oui, bien sûr que c'est agréable de l'entendre. Bien sûr que ça fait du bien. Bien sûr que c'est une marque d'affection, etc. etc. Mais il n'y a plus ce besoin. Ce n'est plus un manque parce que c'est là. Ça pourrait être une surcharge, auquel cas on pourrait donner, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est plus un manque. Eh bien, c'est la même chose pour la conscience collective. Au début, on se pose des questions. On se demande comment ça va marcher. On se demande si ça va marcher. On se demande si ça marche bien. On se demande si on est en train d'écouter les bons signaux. On se demande si on fait les bons actes, les bonnes choses. Et puis, il y a un moment à partir duquel, en fait, on a déjà un pied dedans, et puis un deuxième pied dedans. Et puis, on se rend compte qu'on a déjà fait une certaine distance pendant laquelle on s'est moins posé les questions. Et puis, on se rend compte que ça y est, ça y est. Et ça vaut le coup de le répéter deux fois, ça y est, ça y est. Parce que ça n'avait rien d'évident au départ. Et qu'à l'instant où on se pose 5 minutes pour réfléchir à tout ça, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. On a réussi. Le statu quo étant une certaine contrainte, parce que se reposer sur le statu quo, ne plus évoluer, c'est prendre le risque que quelque chose meure. Du point de vue de la nature et de la performance de la nature, c'est exactement ce qui se passe dans la plupart des cas. Une entreprise qui n'évolue pas dans un environnement en métamorphose constante finit par disparaître. Il en va de même pour nos actions du quotidien, quand on est avec quelqu'un en couple. Il en va de même avec la liaison que l'on peut instaurer avec ses enfants quand on passe par les cheminements de l'éducation. Quand on ne donne pas de temps ou que on ne crée pas de liens ou que plein de choses, eh bien, en fonction de ce qu'on a fait, en fonction du statu quo ou de la remise en question permanente de ce statu quo, ça peut être une remise en question douce. Il n'y a pas besoin d'être subversif ou de vouloir renverser l'ordre établi pour y arriver. Eh bien, on peut le faire évoluer et accompagner son évolution dans le temps. De telle sorte que ça évolue et que ça implique d'autres personnes et que ça continue de vivre et donc de performer du point de vue de la vie qui est la capacité à résister au temps qui passe, au présent et du coup au passé et par définition au futur. Si dans le présent ça se passe bien et qu'il y a une trajectoire, alors sauf cataclysme, sauf grosse erreur, et on n'est jamais à l'abri de grosse erreur, eh bien ça devrait se passer plutôt bien. Et c'est à partir de ce moment-là, on peut imaginer une démarche de planification. C'est quoi la planification ? Eh bien pour le coup, je vais rebondir par des exemples. Des choses vécues. Vécues au passé et vécues au présent. Qui devraient être vécues au futur aussi. La planification, c'est une manière d'agir en tant que stratège. C'est réfléchir à un plan d'action, déployer ce plan d'action, faire ce plan d'action et ajuster ce plan d'action. Réfléchir pour anticiper l'avenir, ça veut dire deux choses. J'ai une mission et une vision. Où je vais ? Vers où je vais ? C'est quoi que je veux atteindre ? Par exemple, vous savez que la cathédrale Notre-Dame à Paris a brûlé l'année 2020. Ou était-ce 2019 ? Le temps passe vite. Vision, mission, reconstruire Notre-Dame à l'identique. Vision, ça c'était la mission. Vision, redonner sa splendeur à la cathédrale de Notre-Dame ou à la ville de Paris. Voilà, vision grand. Objectif, le faire en un an. Ça, c'est la deuxième partie. J'ai une vision, j'ai une mission, j'y associe des objectifs. Je pense à ce que je dois atteindre. C'est quelque chose qui doit être accessible et quand même de l'ordre du challenge. Si c'est trop simple, trop facile plutôt, eh bien, j'ai de fortes chances de succès. Mais est-ce que j'aurais pas pu faire mieux ? Mieux sans que ça soit trop contraignant non plus. Et c'est là où on y applique ensuite des moyens. Comment est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs ? La vision et la mission, ce sont deux choses. La vision, c'est le pourquoi. La mission, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison d'être. C'est ce qu'on appelle purpose en anglais. C'est plutôt le why de Simon Sinek, et je vais distinguer les deux. Commencer par le pourquoi, c'est ce qui permet de faire se bouger les fouloules, de se saisir de quelque chose d'inspirant et de contribuer à la réussite de cette tâche. Parce que je suis tellement inspiré par l'audace de ce que ça, moi, éveille chez moi, que je vais y contribuer. C'est comme ça que les grands leaders arrivent à rassembler. Les leaders, ça peut être des Tim Cook ou des Apple. Ça peut être une personne physique comme une personne morale. Ça peut être une entité. Ça peut être Microsoft, ça peut être Apple, ça peut être Google, ça peut être Amazon. La mission de Google, par exemple, c'est « Organize the world informations ». Organiser les informations du monde. Pour les rendre accessibles à tous. Ça, c'est puissant. La mission de The Family, qui est une société qui accompagne les startups à grandir, à croître, à conquérir le monde, eh bien, c'est Building Ambitious Startups in Europe. Construire des startups ambitieuses en Europe. Parce que par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, on est à la rue et qu'on n'est pas compétitif sur le plan international. C'est une mission extrêmement inspirante sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est là où c'est complémentaire avec ce qui s'appelle, par exemple, le Massive Transformative Purpose, ou appelé MTP pour les initiales, que je peux vous inviter à découvrir, qui est une autre façon d'exprimer le pourquoi, et complémentaire. C'est quelque chose qui est suffisamment ambitieux, courageux, audacieux, pour qu'en fait on soit quasiment à la fois écrasé et d'inspiration et de désir d'y contribuer. Si ça nous parle un tout petit peu, c'est bon, on est dans le truc. Elon Musk, par exemple, est extrêmement fort. Quand il crée le futur de l'énergie, le futur de la mobilité, le futur des transports, le futur du voyage spatial, il réemploie à chaque fois les mêmes idées créatives, mais il n'empêche que c'est extrêmement audacieux, extrêmement courageux, extrêmement ambitieux et extrêmement inspirant. Qu'on se le dise ou non. Et l'idée n'est pas de se faire aimer ou détester. On n'en a rien à faire à ce moment-là. L'idée, c'est d'être capable d'exprimer une vision, une mission suffisamment puissante pour que n'importe qui, et pas tout le monde, mais pour que n'importe qui, ce qui est différent, puisse s'y associer ou s'y retrouver dans cette vision et se dire « Waouh, ça, j'en suis ». La deuxième chose, ce sont les objectifs. Associer des objectifs à cette mission. Par exemple, aller sur Mars d'ici 2024, ou 2023, ou 2025. Ok, ça c'est un objectif. Faire décoller, diffuser cette année, je pense à SpaceX puisque je viens de parler d'Elon Musk, faire décoller et atterrir 10 fois la même fusée cette année. Ça c'est un sacré objectif. 10 fois, ça veut quasiment dire une fois par mois. Ça veut dire que la fusée ne doit pas exploser, ça veut dire... Enfin, il y a plein de choses derrière. Il y a toute une logistique, tout un tas d'actions liées à la planification de ces objectifs qui doivent être menées. Et pour le coup, on en vient aux moyens. J'ai une idée en tête, j'ai de l'information à ma disposition, cette information doit être transformée en connaissances, et ses connaissances en compétences. Pour que mes compétences rencontrent l'exigence de ma vision et nous permettent ensemble, collectivement, d'atteindre nos objectifs dans le cadre imparti. Temps, argent, moyens humains, etc., etc. Ce sont toutes les ressources qui sont à votre disposition pour l'atteindre. Pour le coup, je vais repartir d'une manière un peu plus terre à terre. Il y a une époque où j'étais maçon. Ma mission à ce moment-là, c'était pas du tout de construire des bâtiments. C'était quelque chose de beaucoup plus personnel. J'avais besoin de prendre l'air. Le moyen que je m'étais donné, c'était d'aller faire un travail manuel, un travail physique. J'avais besoin de prendre l'air et de me décharger d'un trop-plein d'énergie, de colère, de plein de choses liées à plusieurs années passées plus difficiles, sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, et du coup sur le plan physique. Eh bien, j'avais besoin de décharger toute cette énergie, c'était ma mission, grâce à un métier qui me permette d'évacuer eh bien, toute cette énergie, tout simplement. Le moyen que j'ai trouvé pour le faire, c'était de devenir maçon. Taper au marteau toute la journée, passer, travailler au marteau piqueur, etc., etc. Eh bien ça, c'était mon moyen. Et il me manquait un objectif. je ne m'étais pas donné de temps. Et ça aurait pu continuer. Je me suis dit, ça va me prendre le temps que ça va me prendre. Mais je n'avais ni d'objectif financier, ni d'objectif de temps, ni d'objectif... Enfin, j'avais pas d'objectif personnel. Je savais même pas à quoi me référer. Ça, dans un projet, c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas atteint ses objectifs, quelque part. Ou bien alors, c'est le meilleur moyen que de passer à côté de ce qu'on vise. Pour le coup, dans le cadre de ma vie personnelle, je n'y avais pas associé d'objectif. Et ça m'a pris 2 ans. Ça m'a fait du bien. Et je m'en suis rendu compte à un moment où, en fait, j'ai plafonné dans l'entreprise parce que j'ai passé 7 grades dans ces 2 années. Ça a bien marché. Je me suis fait des super collègues. Je faisais du bon boulot. Mais je pouvais pas plus évoluer. Et puis, j'ai senti que c'était le moment de partir vers autre chose. Alors, j'ai commencé à me redonner d'autres... à regarder à côté ce qui se faisait. Et de fil en aiguille, je suis devenu technico-commercial, toujours dans la construction, pour me rendre compte que j'étais absolument pas doué, ni bon, et bourré de complexes par rapport au travail de commercial. Le côté technico, c'était plus parce que je pouvais avoir des discussions techniques à travers la construction et des bureaux d'études. Mais bon, peu importe. Je me suis trouvé une deuxième mission. Devenir ingénieur d'affaires pour acquérir les compétences nécessaires à ma performance dans le milieu du travail en lien avec le travail de commercial. Je suis pas bon là, mais il y a des choses qui me plaisent. Je comprends pas pourquoi je suis pas bon. Je vais y arriver. Et pour le coup, ma mission, c'était de devenir ingénieur d'affaires pour gagner plus d'argent. J'ai repris des études en alternance pendant 3 ans. J'ai vécu avec un SMIC pendant 3 ans à Paris, sans aide, sans CAF, sans truc là, qui permettent à des étudiants normalement, c'est-à-dire les étudiants qui suivent un parcours collège, lycée, études supérieures et compagnie, qui sont sans aide en tant que repreneur d'études, avec un salaire du coup assez faible lié à l'alternance, et encore, j'étais correctement payé. Ça m'a permis de réussir mon objectif. J'avais 3 ans pour y arriver, grâce aux moyens que je m'étais donné. Déménager, étudier, gagner ma vie en même temps que de faire des études, être indépendant, être autofinancé, etc., etc. Mission, devenir ingénieur d'affaires. Vision. C'était ça. Une sorte de revanche sur le fait d'avoir arrêté les études plus tôt. Objectif. Être diplômé et le faire en 3 ans. Objectif secondaire, être pris parmi les meilleures entreprises du secteur. Pour le coup, c'était la société Oracle, qui est un des 2 leaders mondiaux de la vente de logiciels. Un des 5 ou 6 leaders mondiaux de la vente de logiciels. Une société qui fait plus de 40 milliards, qui est cotée au Nasdaq, qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France avec sa filiale commerciale. Et bien du coup, c'était génial. 3 années. Super. Pas simple. Mais ça m'a permis d'y arriver. Et pour le coup, deuxième chose, c'est que sur le plan de la planification, c'était d'un brouillon. J'avais ça en tête, ces éléments que je vous ai partagés avant, mais c'était absolument pas ni structuré, ni organisé. Je m'y suis pris en système D total, en mode, de toute façon, je vais y arriver. Confiance absolue dans l'inconfiance absolue. Dans le doute le plus total. Et pourtant, il s'agit d'y croire. Si vous ne croyez pas en votre propre projet, déjà, à la base, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans l'intention d'y arriver, eh bien, il y a un couac. Il y a déjà une fracture. Et cette fracture peut engendrer une crevasse absolument phénoménale et faire se détacher la Californie des États-Unis mais dans votre vie à vous. L'intention que vous mettez à accomplir certains actes conduit à sa réussite ou à son sabotage. Et les entre-deux sont beaucoup plus douloureux que d'avoir quelque part une définition claire du point d'arrivée. À partir du moment où je vous ai communiqué ces exemples, en quoi est-ce que je peux le relier avec le côté information, connaissance et compétence? Eh bien, en réalité, j'ai bossé comme un acharné. J'ai vachement bossé. J'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et ça a commencé à se transformer en connaissances. J'ai commencé à pouvoir donner des conseils, à pouvoir dire, bah non, fais plutôt ça ou ça. Alors, tout est relatif. Je l'ai fait avec ce que moi j'avais en ligne de mire, ce que moi j'avais en tête, avec mon périmètre d'activité à moi, et pas mon petit périmètre, juste mon périmètre d'activité à moi, mon périmètre de connaissance. Il n'empêche que ça a parfois apporté de super solutions. Et c'est là où il y a eu un gros crash. Parce qu'une fois que je me suis retrouvé diplômé, j'ai été dans des sociétés où, pour le coup, j'avais pas la compétence. J'avais pas la compétence alors que j'avais énormément de connaissances. Et c'était extrêmement frustrant. Et vous le savez, ça. Je vais prendre l'exemple d'un gâteau. Vous avez tous les ingrédients, vous avez des super ingrédients. Et il ne suffit que de suivre la recette. Et pourtant, la pâte, elle a une texture, c'est super bizarre, on comprend rien ce qui se passe. Ça fait pas comme sur la vidéo, ça fait pas comme sur le bouquin. Vous mettez votre gâteau au four et vous vous dites de toute façon ça va être bon parce que j'ai mélangé des bons ingrédients ensemble. Et puis en fait, vous ratez votre pâte, c'est trop sec, ça part en frisottis, ça part en miettes. Votre gâteau, il est brûlé et au final, dans l'assiette, vous n'osez à peine présenter votre gâteau qu'à vous-même. Et même quand vous le mangez parce que voilà, c'est votre gâteau et il faut bien faire avec ce qu'on a. Pour ne pas le jeter à la poubelle non plus. Et c'est là où il y a une fracture aussi. C'est que il y a tellement de gens qui savent faire, mais qui ne savent pas faire. Quand on dit « je sais », bah très bien, mais tu sais comment ? Tu sais en tant qu'enseignant ? Ou tu sais en tant que praticien ? Et il y a une différence fondamentale, et c'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu permanent d'équilibre, parce que si vous savez beaucoup de choses et que vous êtes incapable de les appliquer, alors vous êtes ce qui s'appelle, entre guillemets, et de façon non péjorative, un prof. Vous en savez beaucoup et vous pouvez enseigner et rayonner sur le monde qui vous entoure grâce à vos connaissances. Et si vous êtes quelqu'un extrêmement apte, capable d'appliquer les choses, de les faire, d'agir et d'avoir des résultats tangibles, je vais prendre l'exemple de Frankie Zapata parce que j'en ai parlé cette semaine. Frankie Zapata qui tourne des boulons là dans son garage et qui fait un flyboard qui lui permet de traverser la Manche debout, dans l'air. Alors ça lui aura pris des années, des années, des années. Mais les meilleurs ingénieurs du monde n'y sont pas arrivés avant lui. Manque de conviction, manque d'idées, manque de temps. Quand on veut, on fait. Quand on veut vraiment, on fait. Mais qu'est-ce qui importe pour vous à ce moment-là ? Qu'êtes-vous en mesure de faire au point que vous puissiez y passer tout votre temps ? En même temps, si je ne fais que faire mais que je n'apprends rien, alors je serai bien dans ce que je vais faire, mais je ne vais pas aller très loin. Donc ça rejoint une question d'ambition, une question de vision, une question d'énergie, une question d'attention. Où va mon intention? Où vont mes intentions? Qu'est-ce que je suis capable de transposer de mon cerveau, de mon imagination au monde pratique, grâce à mes mains, grâce à un environnement physique, de telle sorte que j'ai réfléchi à mon projet bien en amont, que je sois capable de structurer et de développer mon idée, pour la projeter et l'étaler dans le temps grâce à des jalons, un petit peu comme pendant un marathon où il y a eh bien, tout un tas de paliers à 1 km, à 2 km, à 3 km, à 4 km, jusqu'à 42 km, où vous avez terminé, où vous êtes arrivé. Et dans ce cas-là, vous avez fait le finish du marathon. Sauf que là, il n'y a pas de finish. Il peut ne pas y avoir de finish. Ça peut être à chaque jalon une sorte de finish, et puis il faut ajouter d'autres jalons. Et que dans cette planification stratégique, qui pour le coup devient stratégique, parce que c'est une projection, une vision à moyen-long terme, et tout est relatif dans le moyen-long terme, hein. Un an pour quelqu'un qui a 5 ans, c'est 20% de sa vie. Un an pour quelqu'un qui en a 84, et je repense à des paroles de Bob Proctor que je vous invite à découvrir sur Instagram si vous ne le connaissez pas, qui disait ça justement, d'ailleurs c'est de lui qui vient de cette phrase, en fait c'est même pas de moi. Un an quand on a 84 ans, c'est un 84e de votre vie. Et c'est pour ça que, une année. Et là, vous commencez à faire un autre truc et, une autre année. Alors que quand vous êtes jeune, oh là là, un an, c'est extrêmement long. Qu'est-ce qui se passe en un an? Alors, je sais pas, on devient occupé ou c'est juste notre rapport au temps qui est différent? Les deux? À vous de me le dire en fonction du temps qui passe pour vous. En tout cas, il y a un moment à partir duquel les choses semblent s'accélérer. Mais peu importe. Tout est relatif. C'est une question essentiellement de perception, d'expérience, de vécu, de ressenti, de subjectivité, de plein de choses comme ça, qui font que on ne peut pas non plus être extrêmement rigide sur sa planification stratégique. Vouloir concevoir un environnement doué où la conscience collective est imprimée dans les fondamentaux, dans les fondements de la société, dans la culture, du coup, de la société, au même titre que ça pourrait être celle de sa famille, au même titre que ça pourrait être un environnement associatif, enfin, à la limite, voyez en le projet dans lequel vous croyez le plus ou que vous admirez le plus, cette représentation. Si vous avez une vision à un moment et que vous faites un plan, ce plan ne peut pas être dénué d'agilité et d'adaptation permanente. Parce que le monde change vite. Demain, il peut y avoir un deuxième Covid, un autre Covid, un Covid +++, un Covid trois fois plus meurtrier, un Covid qui fait que c'est plus possible de sortir. Il faut se faire livrer ses courses par des gens avec des combinaisons quasiment militaires, anti-bactériologiques. Vous imaginez si on devait en arriver là? Ça serait possible. Mais à ce moment-là, votre plan, il vaut plus rien. Ou bien même, vous êtes deux. Vous misez tout sur des efforts à deux. Et puis, il y en a un qui a un accident, il se casse le pied, il se casse la main et il se casse la mâchoire. Il peut plus ni marcher, ni écrire, ni parler. Comment vous communiquez? Comment vous faites? Ça va prendre deux fois plus de temps? C'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que les efforts ne sont jamais purement divisés par deux. Vous avez toujours des compétences que l'autre n'a pas. Vous avez toujours du savoir que l'autre n'a pas. Donc ce temps, si vous n'êtes plus que un, il peut être même multiplié par 3 ou par 4. Voire plus. Et vous pouvez vous dire, waouh, on fait quoi les gars? On abandonne? Bah oui, mais si on peut pas vous répondre. Avec les mâchoires cassées, c'est compliqué. Donc, bon, c'est un truc qui me fait rigoler en live comme ça. Ne m'en tenez pas rigueur parce qu'on ne rigole pas des gens qui ont la mâchoire cassée. Même si ça peut conduire à des situations assez drôles quand on doit manger avec quelqu'un qui a une paille en permanence. Mais ne faites pas rire ces personnes-là, ça peut être douloureux. Toujours est-il que l'agilité n'est du coup pas du tout qu'une méthode comme la méthode agile, comme les méthodes qui sont employées par les ingénieurs en développement, par exemple Puma, Scrum et ainsi de suite, mais plutôt comme une attitude face au changement pour accepter que le changement arrive, est là, il est déjà là. À partir du moment où vous avez écrit un plan d'action couché noir sur blanc ou sur votre mur, comme j'ai pu le faire avec le podcast Les Doigts dans le Miel pour les 300 premiers épisodes, et on en est au 288, si ma mémoire est bonne, la planification, et planification stratégique, eh bien, ce plan est déjà caduque à partir du moment où vous avez réussi à le coucher. Donc, il s'agit de garder une vraie flexibilité, une flexibilité culturelle, imprimée dans les fondamentaux également, pour être capable de s'adapter et donc de survivre, de faire en sorte que votre stratégie soit et déployée, Et ça, c'est le côté action, après la réflexion, l'action. C'est ce qu'on appelle la réflexion. Alors, c'est un mot qu'on triple au Scrabble. Si vous arrivez à le placer, je suis fier de vous. Vous pouvez être fier de vous également. Toujours est-il que la réflexion plus l'action conduisent à la réflexion. Autant que la simplexité et la contraction du mot simple et complexe. Nous vivons dans ce genre de monde où on a besoin de penser et de faire, de penser et de faire, de penser et de faire. Là où il y a une majorité de personnes éduquées, de gens ordinaires, éduqués pour être, pour reprendre d'ailleurs le terme de... non pas Irène Dupont-Couturier, mais le philosophe Alain de Vulpian, les gens ordinaires, eh bien, nous sommes éduqués ou pour réfléchir ou pour faire, et on manque cruellement de lien entre les deux. Soyez stratège par rapport à votre vie, soyez stratège et planifiez votre vision, vos missions, celles qui arrivent dans le quotidien, celles qui font que vous allez vous épanouir, celles qui font que vous allez réussir, etc., grâce à des objectifs, et également en les associant avec les bons moyens pour répondre aux exigences de vos ambitions. La congruence étant l'alignement entre tous ces plans, et votre capacité à le réussir sera dans le fait de vous adapter en permanence, et bien au temps qui passe et aux singularités qui peuvent arriver dans le quotidien, comme le Covid. Alors, je vous invite à me partager, pourquoi pas, vos histoires liées à cette notion de planification, parce que vous avez déjà pu mettre ce concept en pratique. Bien entendu, vous êtes des stratèges déjà nés, mais avez-vous la discipline pour être des stratèges d'envergure? Ça, c'est plus compliqué. Non pas parce que vous ne savez pas, mais parce que vous ne le faites pas. Et vous êtes comme moi, nous sommes des personnes, tout court, des gens ordinaires. Et ça, c'est ce qui fait que nous tombons parfois dans des travers identitaires liés au fait à la nonchalance du non-faire, au fait d'avoir la flemme, au fait de ne pas s'occuper de ses affaires. Alors partagez vos anecdotes, que ce soit sur Encore, bien de vive voix, sur l'application Encore donc, de Spotify, ou bien sur le compte Les Doigts dans le Miel, sur Instagram, de vive voix en message privé, ou par écrit si vous êtes plus à l'aise, ou bien en commentaire de l'illustration de l'épisode du jour numéro 288. Je vous donne rendez-vous demain dans le pacte humaniste. Et oui, on va parler de pacte humaniste. On va surtout parler de pacte bien plus que le côté humaniste, parce que le côté humaniste, pour moi, s'intégrera dans le pacte. Mais on verra ça demain. Avant que je dise des bêtises, il s'agira de pouvoir s'adapter au quotidien. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.